Regard climatique.
Il est là !
Le réchauffement climatique.
Alors il faut s'adapter.
Le média qui décrypte pour vous les actualités environnementales.
Trois émissions réalisées par les élèves de première 2 du lycée Marcel Gimond à Aubenas.
Oui, il y a un changement climatique. Nous ne pouvons pas en prévoir l'évolution.
On comprend bien que ça va être très compliqué de gérer la situation.
Et alors on fait quoi ?
Regard climatique.
Pour ce troisième volet de Regard climatique, nous allons évoquer les problématiques liées à l'eau avec trois problèmes présents et futurs. Au sommaire de ce magazine, la salmoniculture, qui est l'élevage du saumon en Norvège, importé en France. Dans ce podcast, on évoque les impacts environnementaux liés à la façon de faire actuelle et comment résoudre les problématiques pour le futur. Ensuite, nous parlerons des mégabassines en France. Le podcast répond aux questions globales des mégabassines avec une interview inédite de M. Laloz, membre du syndicat des eaux d'Ardèche. Le dernier thème traite l'un des sujets les plus populaires lorsqu'on parle du réchauffement climatique, la montée des eaux. Ce podcast nous dévoile ce qu'est la vraie fonte des glaces, qui est souvent mal imaginée, et les réelles conséquences et importances des glaces.
Le saumon est de nos jours la première espèce de poisson consommée en France. L'élevage du saumon, ou salmoculture, a explosé depuis les années 80. Normes sanitaires, éthiques de consommation et impacts environnementaux, les rapports du réseau mondial d'ONG CIWF alertent sur l'ampleur prise par cette industrie. En effet, l'Écosse, premier pays important du saumon en France, produirait dans ses salmocultures autant de déchets que la moitié de la population du pays. Il se trouve que peu de normes encadrent l'industrie salmonicole, jusqu'à 25 kg de poissons au mètre cube pour des individus de 2 à 5 kg pour les quelques élevages se restreignant. Ces fermes piscicoles présentent une menace pour les populations sauvages, qui se retrouvent parfois face à des saumons échappés d'élevage porteurs de maladies.
Un autre fléau de l'élevage piscicole est le pou de mer. En effet, ce crustacé se loge dans les plus petites parties apparentes de la peau du saumon et provoque déficience immunitaire, retard de croissance, perte d'appétit et même la mort des poissons. Tout cela a forcé les producteurs à trouver des solutions afin de stopper les infections de leurs poissons. En effet, à l'échelle mondiale, 4,3 milliards de dollars ont été investis entre 2013 et 2019 dans les recherches qui se penchent sur ce sujet. Ces recherches sont toujours en cours, cependant, la majorité des producteurs utilisent un pesticide appelé peroxyde d'hydrogène. Mais l'utilisation de cette substance provoque de nombreux problèmes de santé pour les saumons, tels que des lésions au niveau de leurs branchies, mais aussi des problèmes comportementaux, comme du stress, ainsi qu'une augmentation de la mortalité de la population. Dans un but de protection du bien-être animal, de nouvelles méthodes de traitement ont été inventées. En effet, quelques producteurs utilisent déjà des méthodes telles que l'utilisation de poissons nettoyeurs, le traitement par la chaleur ou encore le nettoyage des poissons grâce à des jets puissants. Mais, malgré des améliorations notables, ces solutions sont encore imparfaites. Nous noterons malgré tout que la recherche dans ce domaine avance à grands pas et que des méthodes basées sur les ultrasons ou sur l'utilisation de clôtures électriques et même d'autres qui joueraient sur la sélection génétique sont en développement et que ces dernières seraient sans risque pour les poissons.
Cependant, nul besoin de bannir le poisson de son alimentation. Il reste possible de le consommer éthiquement et à des prix abordables, en se basant sur des labels repérables facilement en grande surface. Par exemple, le projet Medfish, qui a été créé en 2015 par la WWF, le Fonds mondial pour la nature et le label de pêche durable MSC, a pour objectif d'analyser en profondeur les pêcheries méditerranéennes françaises et espagnoles, en utilisant le référentiel pêcherie du MSC comme outil d'évaluation de leur durabilité.
Thank you.
référentiel est basé sur trois principes fondamentaux, donc un stock de poissons durable, un impact environnemental minimisé et une gestion efficace des pêcheries. Ce projet propose des plans d'action pour améliorer une sélection des pêcheries méditerranéennes qui se fait en quatre étapes. Tout d'abord une cartographie des pêcheries, puis leur préévaluation, l'élaboration de plans d'action et la mise en place de ces plans d'action. Ce projet est bénéfique autant pour l'écosystème que pour les pêcheurs, car il permet une amélioration des stocks, mais aussi une gestion plus durable des ressources, et il apporte des connaissances dans un domaine qui en manquait et permet de réaliser certains problèmes, comme par exemple le fait que 85% des stocks évalués sont considérés comme surexploités. Le but est de créer une pêche durable en Méditerranée et d'inspirer des initiatives similaires dans d'autres pays.
Consommer le saumon d'élevage éthiquement reste également possible. En effet, d'autres labels comme ASC qu'on retrouve aussi en supermarché œuvrent pour minimiser leurs impacts sur les écosystèmes tout en garantissant une meilleure qualité du poisson. Par exemple, la nourriture donnée aux poissons se doit de parvenir d'une pêche responsable et l'usage d'antibiotiques est fortement restreint.
Finalement, afin d'avoir une consommation de poissons plus éthique et plus éco-responsable, vous pouvez, vous, en tant qu'acheteur, aller vous renseigner sur les différentes associations qui tentent d'agir de manière plus responsable, telles que Poiscaille, Côté Fiche ou encore MyFish. Par exemple, pour ce qui est de l'association Poiscaille, celle-ci vous propose des produits issus d'une pêche objectivement durable et qui suit différents critères précis afin d'assurer cet objectif. Ces critères sont énumérés au nombre de 4. Le premier critère est que les navires de pêche ne doivent pas dépasser 12 mètres, avec pas plus de 3 marins à bord afin d'avoir une pêche à petite échelle. Le deuxième critère est que les techniques de pêche utilisées sont douces, comme la pêche à la ligne, au casier ou même à pied. L'utilisation de chaluts et de dragues est interdite et la pêche sélective mise en place permet de préserver les fonds marins. Comme troisième critère, il est interdit de rejeter les poissons et ceux-ci doivent être pêchés et manipulés avec soin, préservant ainsi leur qualité aux espèces. Il n'y a pas d'importance parmi celles-ci et même les espèces peu connues ou oubliées sont vendues. Et enfin, comme quatrième critère, il vous certifie une fraîcheur inégalable pour un temps d'écart maximum entre la pêche et chez vous de 72 heures.
Ainsi, les nouveaux projets d'avenir ne cessent d'émerger pour garantir aux consommateurs un produit de qualité respectueux de l'environnement.
Regard climatique.
Le média qui décrypte pour vous les actualités environnementales.
Bonjour, nous sommes Chérine, Océane et Marie de la radio Info RC et aujourd'hui nous allons aborder le sujet des mégabassines en France.
L'État avait sorti le grand jeu pour défendre ses chantiers à Sainte-Soline.
Si on ne réagit pas maintenant, ça sera trop tard. C'est le moment d'y aller. Sinon, ça sera trop tard, vous comprenez?
L'objet du conflit, les mégabassines. Ces bassins sont dénoncés comme l'énième fuite en avant d'un monde agricole industrialisé et trop gourmand en eau, qui peine déjà à se maintenir.
Mais dis-moi Océane, c'est quoi les mégabassines?
Les mégabassines sont de gigantesques étendues d'eau destinées à répondre aux besoins de l'agro-industrie, notamment en période estivale. Elles s'étendent en moyenne sur une superficie de 8 hectares et vont jusqu'à 18 pour les plus grandes, soit l'équivalent d'une dizaine de terrains de football.
Il s'agit d'énormes bassins artificiels, plastifiés et imperméables. On en est bien loin de la mare aux canards ou des petites retenues collinaires. Elles servent essentiellement à alimenter des productions très gourmandes en eau, comme le maïs par exemple.
Les territoires principalement concernés par les projets de mégabassines sont la Nouvelle-Aquitaine et les Pays de la Loire. Néanmoins, les régions Centre et Bretagne commencent-elles aussi à y être confrontées? Intéressons-nous alors à l'exemple de la méga-bassine de Sainte-Soline avec la vidéo de Numérama.
On parle tantôt de bassine ou de retenue de substitution, mais quand le projet est très grand, c'est là qu'on parle de méga-bassine. Celle de Sainte-Soline en fait justement partie. Elle s'étend sur 10 hectares avec une capacité d'environ 700 000 m3 d'eau. Le projet global dans les Deux-Sèvres prévoit 16 mégabassines, soit 6 millions de mètres cubes d'eau, l'équivalent de 1500 piscines olympiques.
Mais en fait, d'où vient toute cette eau?
Eh bien, cette eau récoltée en hiver vient globalement des nappes phréatiques, des cours d'eau ainsi que de la pluie. Elle est stockée dans ces mégabassines pour l'été lors des sécheresses. Au long terme, elle peut donc permettre de réduire les prélèvements en eau durant l'été.
Attends, t'as des nappes phréatiques?
Oui, c'est une nappe d'eau que l'on rencontre à faible profondeur et qui alimente traditionnellement les pluies et sources en eau potable.
Nous laissons à présent la place à Monsieur Laloz, chargé de mission à l'EPTB du bassin versant de l'Ardèche, afin de nous expliquer la situation actuelle des mégabassines.
Avant d'évoquer les polémiques et les inconvénients de ce type d'ouvrage, il faut tout de même rappeler que ce type d'aménagement est largement soutenu et financé par des pouvoirs publics locaux, parce que ça présente un certain nombre d'intérêts. Le premier, c'est celui de limiter la pression sur les rivières, puisque le prélèvement se fait en hiver et non plus en été. Les agriculteurs doivent abandonner leur prélèvement en été, donc ça présente parfois un intérêt pour les milieux. Ça permet aussi de maintenir des exploitations agricoles et donc une économie locale dans un contexte de changement climatique qui est quand même de plus en plus compliqué. Et puis ça répond aussi parfois à des besoins d'alimentation locale. Donc c'est pour ça que c'est souvent soutenu. Par contre, ça a un certain nombre d'inconvénients et ça pose des questions. Notamment celui du partage de la ressource en eau qui est de plus en plus limité. On a de moins en moins d'eau du fait du changement climatique, notamment l'été. Donc ça pose la question du partage de cette eau entre les agriculteurs parce que ces grands aménagements ne profitent qu'à certains. Et puis du partage avec les autres usages, notamment les milieux aquatiques, les poissons qui vivent dans les rivières, qui ont besoin aussi d'eau. Et puis l'eau potable qui est un usage prioritaire. Qu'il faut pouvoir partager cette eau. Ça pose aussi la question du modèle agricole actuel. Est-ce qu'il est adapté au changement climatique? Est-ce qu'on irrigue les bonnes cultures? Est-ce qu'on peut optimiser l'irrigation? Et ça, c'est pas toujours le cas. Ça permet souvent de faire ce qu'on a toujours fait et pas se poser les bonnes questions sur quel changement faut-il faire, notamment en agriculture. Et souvent aussi, ce qui pose problème, c'est la multiplication de ces aménagements. Une seule bassine peut ne pas être impactant, mais le cumul de ces aménagements fait que ça devient compliqué pour les milieux aquatiques.
Ce que nous devons comprendre, c'est que les mégabassines sont certes utiles, mais au long terme deviennent un danger pour nos nappes phréatiques qui sont déjà bien assez asséchées comme ça.
En Ardèche, bien loin des Deux-Sèvres, la population d'après-guerre a fait de grands aménagements que vous connaissez sûrement. Les barrages hydroélectriques, situés sur la Loire et le Chassezac. Ils permettent de stocker 20 millions de mètres cubes d'eau au printemps, restituée l'été, donc environ 30 fois Sainte-Soline.
Vous allez nous dire, mais ces barrages ont quoi de plus que les mégabassines?
Eh bien, certes, ils servent à irriguer, mais aussi à produire de l'eau potable, de l'électricité, maintenir une activité économique et touristique, diluer les rejets et donc la pollution. Et admettons que vous n'aimez pas cette solution, ne faites pas les aveux. Il y a tant d'autres alternatives possibles. Comme réduire notre demande en eau, par exemple.
On vous invite à présent à réfléchir à deux fois sur tout ça.
C'était Chérine,
Océane
et Marie sur la radio Info RC d'Aubenas.
Regard climatique.
Le média qui décrypte pour vous les actualités environnementales.
On en entend depuis tout petit. Éteins la lumière, pense aux ours polaires. Pourtant, la fonte des glaces reste un sujet lointain et difficile à saisir pour nous qui habitons à des milliers de kilomètres. Aujourd'hui, nous nous donnons comme mission d'apporter un peu de clarté sur ce sujet complexe. Au programme, fonte des calottes polaires, fonte des glaciers et dilatation des océans.
Pour commencer, il est important de définir ce que veut dire calotte polaire. Ce sont des glaciers de très grandes étendues recouvrant la terre ferme des pôles.
Mais alors, quel est le problème ?
Cette glace fond de plus en plus rapidement. Elle perd 3 à 4% par décennie depuis 1979. Et c'est de pire en pire. Cette dernière décennie, elle a perdu 215 milliards de tonnes de glace par an. Et en 30 ans, 28 000 milliards de tonnes de glace ont fondu.
Et pourquoi fondent-elles ?
Cela s'explique par la hausse des températures causée par les émissions de gaz à effet de serre et produites par les activités humaines des deux derniers siècles. De plus, les flaques de glace fondue absorbent plus la chaleur que le reste de la calotte, ce qui accélère la fonte de l'ensemble. C'est un cercle vicieux. Plus ça fond, plus ça fond.
Mais dis-moi, la glace des montagnes ne fond-elle pas aussi ?
Eh bien si, mais dans une bien moindre mesure. La majorité des réserves d'eau douce gelée se situe en Arctique et en Antarctique. En revanche, on sait que la fonte continue des glaciers aura un certain nombre d'impacts. Dans un premier temps, ce sont les secteurs dépendant fortement de l'écoulement de l'eau des glaciers qui en subiront les conséquences. Par exemple, de nombreux agriculteurs utilisent l'eau qui fond en été pour irriguer leurs cultures. Or, dans quelques décennies, le manque d'écoulement ne permettra plus cette importante source d'eau. Et cela affectera grandement les récoltes et réduira les torrents d'été, qui sont nécessaires au maintien à niveau des barrages et des réservoirs.
Mais dans quel pays verra-t-on apparaître cette situation en premier ?
Cette situation est particulièrement préoccupante pour l'Amérique du Sud, où de nombreux lacs artificiels sont remplis presque exclusivement par la fonte glaciaire, mais aussi pour l'Asie centrale, qui est également dépendante de la fonte saisonnière des glaciers, pour l'irrigation et l'approvisionnement en eau potable. Enfin, en Norvège, dans les Alpes et sur la côte pacifique du nord-ouest de l'Amérique du Nord, l'écoulement des glaciers est, cette fois-ci, important pour l'hydroélectricité.
Parlons maintenant de dilatation thermique.
C'est quoi la dilatation thermique ?
La dilatation thermique, c'est quand les molécules soumises à la chaleur ont tendance à s'agiter et à s'éloigner les unes des autres. Par conséquent, le volume qu'elles occupent à nombre égal est plus important lorsque la température s'élève. Ainsi, plus un liquide est chaud, plus il est volumineux. Pour l'eau, l'augmentation est de l'ordre de 0,26 ml pour chaque degré supplémentaire selon Unis.fr.
Mais c'est quasiment rien.
Cela peut paraître dérisoire, mais le volume des océans selon Futura est de l'ordre de 1,37 milliard de kilomètres cubes. Sur Terre, la température moyenne a augmenté de 0,6 degrés, provoquant une dilatation de la couche océanique des 1000 premiers mètres de 15,6 cm au cours du dernier siècle. Les parties les plus profondes sont trop éloignées pour connaître une dilatation significative.
Ainsi, la montée des eaux est due, pour moitié à la fonte des calottes polaires et des glaciers, et pour le reste, à la dilatation des océans. Selon les experts climat de l'ONU, le niveau des mers a déjà augmenté de 15 cm au siècle dernier.
Conséquence, d'ici à 2050, plus d'un milliard de personnes vivront dans des zones côtières menacées. Et d'ici à 2100, le niveau des mers aura augmenté d'entre 0,5 et 2 mètres d'après France Université et Le Figaro.
Si vous voulez plus d'informations sur les causes et les conséquences de la fonte des glaces, nous vous conseillons de lire des livres en rapport avec la hausse du niveau de la mer et des raisons, ou alors chercher des écrits scientifiques sur internet en vérifiant vos sources. Merci de nous avoir écoutés.
C'était Éloane,
Noah,
Lola
et Gabriel.
En première au lycée Marcel Gimond à Aubenas pour Info RC.
Regard climatique.
Trois émissions réalisées par les élèves de première 2 du lycée Marcel Gimond à Aubenas.
Un projet réalisé dans le cadre du parcours éducation aux médias et à l'information. Des podcasts en lice pour le concours Mediatix organisé par le CLEMI et en partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes.